OK, alors on est dans le cours de survol d'histoire de l'Église avec la leçon sur Jean Calvin et on va commencer ensemble par un mot de prière. Père éternel, merci. Merci Seigneur Jésus de bâtir ton Église, de construire ton Église à travers les âges, à travers les siècles, avec beaucoup de fidélité Seigneur, malgré les embûches, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les attaques et les erreurs des hommes Seigneur. Et alors que nous étudions cette période de la Réforme, où l'Évangile a été redécouvert, proclamé, annoncé, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous sommes bénéficiaires, nous sommes héritiers de l'œuvre que tu as faite à travers ces hommes. Des années de sacrifice, des vies qui ont été mises en péril, Seigneur. Un peu de la même manière que les apôtres eux-mêmes ont eu le courage de mettre leur vie en péril, comme on le voit dans le livre des Actes. Apprends-nous, Père, à chérir cette histoire. Apprends-nous à être reconnaissants et à prendre la mesure, Seigneur, de notre responsabilité pour passer le bâton, pour passer l'Évangile et garder le bon dépôt et s'assurer que l'Évangile n'est pas perverti d'aucune manière, Seigneur. Mais au contraire, qu'il soit vécu entièrement au milieu de nous et que la prochaine génération puisse le passer à son tour jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, de nous bénir ensemble ce matin et de nous édifier. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, je vous avais dit que je vous apporterais ce matin l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, en français chez Excelsis, une nouvelle édition qui a été publiée il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'est 1500 pages, d'accord? Donc, c'est gros, puis en même temps, c'est pas gros. Pour le genre d'ouvrage que c'est, les institutions chrétiennes de Jean Calvin, c'est le premier ouvrage le plus complet en termes de théologie systématique, c'est-à-dire qu'il prend tous les sujets importants des doctrines essentielles, disons les doctrines principales de la Bible, et puis il les fait interagir les unes avec les autres. Et donc, c'est un peu comme si tu avais un résumé en un livre de ce que la Bible enseigne sur tous les grands sujets, plutôt que de le lire à travers des livres et des moments dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais tout à l'heure, je vais peut-être vous lire 1 ou 2 extraits de ce livre-là. Le livre n'est pas tellement accessible financièrement, là, c'est 95 $. Là. C'est un livre que vous pourriez sans aucun problème faire acheter dans votre bibliothèque municipale. S'ils ne l'ont pas déjà, vous pourriez le faire acheter, d'accord? Et après ça, l'emprunter si vous voulez. Je ne crois pas qu'on a notre copie, mais bientôt, on va avoir notre bibliothèque va être installée là-bas de manière permanente avec, du voulant, un comptoir de livres aussi. Et on va s'assurer d'avoir une copie dans notre bibliothèque pour que vous puissiez aller faire des lectures, d'accord? Il y a une autre version qui existe. Certains d'entre vous en avaient certains tomes. C'est une vieille version et c'est vraiment du vieux François. Fait que c'est pas facile à lire. J'ai essayé de m'y mettre, mais c'était difficile. Celui-là, c'est encore une pensée très, très rigoureuse, mais dans un français vraiment contemporain. Alors, si on peut aller à l'acétate avec mes 3 dates de mes réformateurs, juste pour se situer, merci. Les 3 pans de la Réforme, ce serait faux de penser que la Réforme est due seulement à ces 3 hommes-là, d'accord? C'est vraiment là... probablement des centaines de personnes à qui on devrait attribuer la Réforme, mais disons que ce sont les grands noms. Martin Luther, comme celui qui a tenu tête le premier à l'Église catholique au péril de sa vie. Et pourquoi est-ce qu'il a dû tenir tête, comme on l'a mentionné? Parce que l'Église ne voulait pas être réformée. L'Église catholique ne voulait pas aller vers des réformes de sa théologie. Il ne comprenait pas cela. Je pense qu'il faut saisir l'Évangile pour accepter de faire ces choses-là et probablement que la vaste majorité des docteurs dans l'Église catholique ne comprenaient tout simplement pas l'Évangile. Et en ce sens-là, même si ça peut paraître gros de le dire comme ça, ils n'étaient tout simplement pas chrétiens. Martin Luther a tenu tête à l'Église catholique et puis sous la protection d'un seigneur, il a pu commencer à instaurer des réformes. Ulrich Zwingli, presque en même temps, mais environ 20 années après, va en Suisse, lui. Alors, Luther est en Allemagne, Zwingli est en Suisse, Suisse-Allemande, va lui-même aussi tenir tête, et lui aussi va être excommunié, aussi de l'Église, mais tout de suite, la ville, il n'aura pas à aller se cacher pendant quelques années. Ça allait vite quand même. L'information circulait, l'imprimerie existe, tout ça, et ces courants-là commencent à circuler en Europe. ces hommes-là étaient en relation par lettre avec les rois d'un peu tout l'Europe, et parce que les rois observaient ces choses-là. Il y avait des jeux de pouvoir, là. Vous vous rappelez, à travers toute l'histoire de l'Église, on l'a vu souvent, beaucoup, beaucoup de jeux de pouvoir, de la récupération politique de la part des chefs. S'émanciper de l'Église catholique pour pouvoir former une Église nationale, ça peut être très, très, très profitable sur le plan politique. Alors, je pense pas que c'était toujours par véritable piété, mais ces hommes-là avaient beaucoup d'influence. Et vient ensuite Jean Calvin, dont on parle ce matin. Si vous regardez les dates, Calvin naît en 1509, d'accord? Et donc, on ne pourrait pas attribuer à Calvin le même rôle qu'on attribue à Martin Luther. Jean Calvin n'a pas eu à tenir tête à l'Église catholique à proprement dit de la même manière. Oui, ça a été au péril de sa vie, certaines décisions qu'il a prises, on va les voir ensemble. Mais en même temps, les réformes avaient déjà cours. Et on ne pourrait pas non plus lui attribuer la redécouverte de l'Évangile, comme Martin Luther l'a fait. Martin Luther a vraiment redécouvert l'Évangile à travers les psaumes, à travers la lettre aux Romains qu'il enseignait. Calvin a pu bénéficier de tout ça et lire déjà beaucoup d'écrits qui étaient en circulation. Simplement pour situer donc ces personnages-là. Alors, Jean Calvin naît en 1509. Je m'excuse. Et puis peut-être qu'on peut montrer une superbe photo de Jean Calvin. Sympathique. C'était la mode des Gautier déjà à l'époque. Alors, Jean Calvin est né à Noyant, en France, en 1509. Il était, dès sa jeunesse, un jeune homme très religieux, très pieux, qui craignait Dieu, qui voulait connaître Dieu, qui avait des valeurs morales très sérieuses dès sa jeunesse. Son père le destinait à aller étudier en théologie. C'est ça que son père voulait qu'il fasse. Mais son père a eu une prise de bec avec l'archevêque local et a décidé que son fils n'irait pas en théologie, mais qu'il irait étudier le droit. D'accord? Donc, il y a eu une réorientation d'études à ce moment-là. Par contre, Calvin lisait beaucoup dès son jeune âge. Alors, il lisait les philosophes grecs, était influencé par les courants humanistes qui étaient en développement à cette époque-là. Alors, il lisait les philosophes grecs, lisait les classiques de la littérature grecque aussi. Et ceci a certainement contribué à la rigueur de sa pensée. Si vous lisez les institutions de Jean Calvin, vous allez lire des écrits qui sont rigoureux, dont la pensée est très, très, très soutenue. Si je veux faire un parallèle, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, ben comparez Paul avec les évangiles, admettons, avec l'évangile de Marc. D'accord? Lorsqu'on lit Paul dans la lettre aux Romains, la pensée est très soutenue. Tout ce qui découle d'une première proposition, ça implique ceci, ben c'est là avec Paul. Jean Calvin pense comme ça, écrit comme ça, et c'est comme ça que c'est écrit aussi dans l'institution chrétienne de Calvin. Donc, c'est un homme qui avait appris à argumenter de manière solide et réfléchie très tôt. On n'a pas vraiment de détails sur sa conversion. D'accord? Lui-même parlera d'un moment dans sa jeunesse où il en est venu à soumettre son cœur à la parole de Dieu. Il en est venu à un moment où il a décidé que toute sa pensée devait être uniquement conformée à la parole de Dieu, à aucune autre autorité. Mais on n'a pas vraiment de détails sur sa conversion, contrairement, par exemple, à Martin Luther ou à Augustin, qui lui-même a raconté sa propre conversion. Maintenant, donc dans sa jeunesse, pendant ses études, il a commencé à s'intéresser à la réflexion protestante, s'intéresser aux Saintes Écritures, et très rapidement, il a attiré l'attention du roi François Ier qui a commencé à trouver ça suspect. Là, on est en France, d'accord? Qui a commencé à trouver ça suspect, les sympathies que Calvin avait pour les protestants, et il a émis un mandat d'arrêt. Calvin n'était pas encore un homme super connu, mais il y avait déjà des tensions en France entre le protestantisme et le catholicisme, d'accord? Le protestantisme est dans sa naissance. En fait, va beaucoup découler de l'œuvre de Calvin pour ce qui est de du protestantisme en France, donc ça va être plus tard. Mais déjà, quand même, il y a un mouvement qui est présent. Et dès que François Ier entend que Calvin a des sympathies pour les protestants, il émet un mandat d'arrêt contre lui. Et donc, pour éviter d'être jeté en prison en 1535, donc à l'âge de 25 ans, il va se sauver en Suisse. Il va aller à Basel, en Suisse, pour se mettre à l'abri. C'était un refuge pour les protestants. D'accord? La Suisse a été pendant toute la période de la Réforme un refuge pour un grand nombre de protestants. Et donc, il y avait beaucoup de protestants qui étaient là. Erasme était là. Farel était là. Et c'est à l'âge de 26 ans que Jean Calvin a publié sa première édition des institutions bibliques, des institutions chrétiennes de Jean Calvin. Pas d'études théologiques dans une école. D'accord? Juste une démarche personnelle. C'était un autodidacte qui lisait beaucoup. Et puis, à 26 ans, il a publié cette brique-là de 1500 pages. D'accord? Il va la réviser et la rééditer, l'augmenter jusqu'à sa mort. Et donc, la version que nous, à partir de laquelle ça a été révisé un petit peu là, pour le français, tout ça, mais la version dont on sert, c'est sa dernière édition de 1559. D'accord? Mais ça vous donne une idée du génie de cet homme-là pour qu'à 26 ans, sans avoir étudié dans une école en théologie, sa formation était en droit, mais par des lectures personnelles seulement, il a pu produire un ouvrage semblable à l'âge de 26 ans. Jean Calvin va écrire des commentaires bibliques sur presque tous les livres de la Bible. Ces commentaires-là sont encore disponibles. J'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Je les consulte peut-être pas toutes les semaines, là, mais régulièrement, plusieurs fois par année, je m'envoie ce que Calvin dit sur tel ou tel sujet. Donc, il est encore beaucoup étudié, beaucoup respecté, même s'il y a des recherches depuis ce temps-là qui nous ont fait découvrir certains éléments au niveau de l'archéologie, des fois, qui vont apporter des nuances dans ce que Calvin comprenait. Mais en même temps, il est encore très, très respecté. Alors, ça a été un homme très, très prolifique dans ce qu'il a produit, dans ce qu'il a écrit. Je ne sais pas si ici on a gardé en français, je n'ai pas vérifié. Le titre original de... Ça vaudrait la peine juste que je vous le lise si je l'ai ici. Je pense que je ne le retrouverai pas. Il a dédié son ouvrage dans sa première édition au roi François Ier, comme on le faisait souvent à l'époque, dans le but de faire une défense de la foi et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il était en train de se séparer justement de la pensée de l'Église catholique. Et en fait, vous pourriez lire sa préface sur son édition de 1559 ou 1560. On a la préface aussi. Et donc, ça vous donne l'esprit dans lequel il a écrit, d'accord? Mais donc, il a dédié cet ouvrage-là au roi François Ier dans le but de défendre la foi chrétienne véritable. Alors, Basel était une ville allemande, et c'est là qu'il avait fui pour se mettre à l'abri du mandat d'arrêt qu'il y avait contre lui, mais Calvin était francophone, et donc il ne prévoyait pas rester là longtemps. Il avait prévu se rendre dans la ville de Strasbourg en France, et pour faire ça, il fallait qu'il fasse un détour pour éviter d'être arrêté, d'être mis sous arrêt, et pour faire ça, il est passé par la ville de Genève. Lorsqu'il est arrivé à Genève, parce qu'en fin de compte, presque tout son ministère va se passer à Genève, d'accord? Les réformes qu'il va faire, tout se passe à Genève, mais c'est un accident de parcours, si on peut dire, parce qu'il se rendait à Strasbourg, mais s'est arrêté à Genève. À Genève, il va rencontrer William Farel, qui est lui aussi un Français, et il va commencer à enseigner un peu avec lui. Farel avait déjà commencé à prendre des positions contre l'enseignement de l'Église de Rome, et il avait commencé à apporter certaines réformes. Et certains érudits vont dire que Farel a été pour Jean Calvin ce que Élie a été pour Élisée, d'accord? Dans le sens que Farel était vraiment l'homme qui va au front, qui s'en va en public. Jean Calvin avait une personnalité timide, c'était un homme qui se voyait lui-même comme un étudiant. Un écrivain, un homme de bureau, de bibliothèque qui allait lire, écrire toute sa vie. Il ne se voyait pas dans un ministère public. Mais William Farel, lui, avait un ministère très, très public. Et c'était un homme qui avait de la verve, qui avait du feu lorsqu'il prêchait. Il prenait des positions très, très claires. Calvin, comme je le dis, était convaincu que son appel à lui, c'était d'être un étudiant et un écrivain. Et donc, il était convaincu qu'il n'était pas appelé à un ministère public. Alors, il poursuivait son objectif de se rendre à Strasbourg. D'accord? Maintenant, il a eu à travailler un petit peu avec Farel pendant quelques mois. Et puis, il l'a appuyé dans son travail. Et Farel, qui était un homme de feu, comme je dis, lorsqu'il a vu que Jean Calvin ne voulait pas mettre de côté son projet de partir pour Strasbourg, Farel lui a dit quelque chose comme ceci. Que Dieu condamne ton repos et le calme que tu recherches pour ton étude, si devant un si grand besoin, tu te réfugies et tu ne m'apportes pas ton secours et ton aide. » Ça, c'était comme la malédiction qu'il est en train de prononcer sur son ami s'il gardait son projet de se rendre à Strasbourg. Et plus tard, Jean Calvin va dire que ces mots l'avaient choqué et l'avaient brisé dans ses projets d'aller là-bas, puis il l'avait remis en question. Et donc, il a décidé de rester à Genève pour appuyer Farel dans ses réformes. Calvin était vraiment le docteur, le théologien, qui appuyait tout le travail que Farel est en train de faire. Et c'était un excellent pasteur, comme on va le voir. Donc, il est resté à Genève et son ministère, à partir de là, a commencé à avoir un impact sur toute l'Europe, d'accord? Parce que ses écrits vont se répandre, lui-même va être en correspondance, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec beaucoup de personnes. Dans les premières années, il va y avoir des tensions entre Calvin, ce qu'il enseigne du haut de la chaire, et le conseil municipal, d'accord? Dans les villes, à cette époque-là, le conseil municipal était comme... C'est comme le roi pratiquement, d'accord? Parce que les villes étaient grosses, les villes étaient relativement autonomes. Et donc, il va y avoir des conflits parce que Calvin affirme que l'Église doit avoir le droit de mettre en discipline. Maintenant, ça peut avoir des incidences s'il y a une Église dans la ville, une Église qui est respectée dans la ville, et que l'Église met quelqu'un en discipline, ça a une incidence sur les relations d'affaires, ça a une incidence sur plein de choses dans la ville, d'accord? Mais il dit non, c'est clair, les Écritures sont claires, il faut que l'Église ait la liberté d'excommunier qui elle estime qu'elle doit excommunier, mettre en discipline, qui elle estime qu'elle doit mettre en discipline lorsqu'il y a des pécheurs non repentants. Et donc, il y a eu des tensions avec les magistrats de la ville pendant environ 2 ans. Parce que lui voulait, Calvin, avoir une église où les membres qui disent être membres marchent selon les principes de la parole de Dieu. Et ils en sont venus à évincer, à chasser de Genève Calvin en 1538. Même si c'était quelqu'un qui défendait la vérité. J'ai mentionné un petit peu plus tôt dans le survol, j'ai parlé de Jonathan Edwards qui vient beaucoup plus tard. Mais Jonathan Edwards, qui a été aussi un des théologiens les plus importants de toute l'histoire de l'Église, a été chassé de son Église parce qu'il avait décidé de reprendre des jeunes gens qui avaient fait des abus d'alcool puis qui s'étaient présentés comme ça à l'Église. Puis lui, il a décidé de les reprendre en chair. Puis c'était des familles, tu sais, il y avait des relations de famille, puis c'était des enfants d'une grosse famille dans l'Église. Fait que Jonathan Edwards a perdu son poste de pasteur parce qu'il avait décidé de se tenir debout. Maintenant, si cette Église-là savait l'importance que cet homme-là allait avoir dans les siècles à venir, je pense qu'il aurait été honteux de leur décision. Mais c'est juste pour dire, t'enseignes la vérité, tu te tiens debout, puis tu vis avec les conséquences et t'acceptes que tu ne seras pas toujours populaire. Tes ennemis ne seront pas toujours... simplement à l'extérieur, ils peuvent être aussi autour de toi et près de toi. Alors, Jean Calvin et William Farel vont partir pendant 3 ans et ils vont aller se réfugier, je ne veux pas vous induire en erreur, à Strasbourg. Calvin était super heureux. Il pouvait étudier 3 ans d'études dans les bibliothèques, à écrire, à étudier. Il s'est marié dans cette période-là avec une veuve. Une dame qui était veuve, qui avait 2 enfants, donc il a adopté ses enfants, il s'est marié avec elle. Il était très, très, très heureux dans cette vie-là et il était prêt à se destiner à ça à long terme. Maintenant, en 1541, la ville de Genève, ils ont réalisé l'erreur qu'ils avaient faite. Et donc, ils ont demandé à Calvin et à Farel de revenir dans la ville pour prendre la charge de l'Église et conduire cette Église-là. Au départ, Calvin n'était pas convaincu. Il était bien dans sa vie d'étudiant, d'enseignant. Et il ne se voyait pas comme un pasteur, d'accord? Ce n'était pas le rôle que lui se serait donné à lui-même. Mais par un sens du devoir, peut-être avec un peu de tordage de bras de son ami Farel, je n'ai pas les détails, mais par un sens du devoir, il a décidé de retourner à Genève. Et c'est là qu'il va passer le reste de ses jours, d'accord? Lorsqu'il est arrivé à Genève, premier dimanche, lorsqu'il s'en vient pour prêcher, il a été chassé, d'accord? C'était comme l'occasion de régler les comptes. Mais lorsqu'il est monté en chair, il a pris le passage où il était rendu 3 ans plus tôt, puis il a continué à prêcher de tout ce qu'il a fait. Et il n'a jamais fait allusion au fait qu'il avait été chassé. Et c'était une manière pour lui de dire, c'est pas moi l'autorité ici, c'est la parole de Dieu, et on va continuer à enseigner la parole de Dieu. C'est un beau témoignage de cette humilité, du fait qu'il n'était pas là pour se justifier lui-même ou pour pouvoir régler des comptes avec des personnes. Et donc, il prêchait par exposition, comme je le dis, ses commentaires sont excellents. Si ça vous tente, ça, c'est peut-être un peu plus abordable. Vous pouvez acheter un commentaire à la fois, mais ça se lit à côté d'une lecture biblique. Vous êtes tous en train de lire les Actes là, pour suivre la prédication. Vous pouvez lire les Actes, le commentaire biblique de Jean Calvin dans les Actes en même temps. Et donc, c'est ça, tout son ministère, il a prêché par exposition. Je lève mon chapeau à ces gens-là. Il prêchait deux sermons dans le Nouveau Testament chaque dimanche. Et une semaine sur deux, il prêchait un sermon par jour dans l'Ancien Testament. D'accord? Ça, c'était sa cadence de prédication pendant 23 ans. J'imagine qu'il faisait moins de recherches d'illustrations qu'on le fait, là, mais quand même, tu sais, c'est énorme. En sachant tout ce qu'il a écrit, puis toute la correspondance qu'il y a eu avec plein de monde, c'est absolument incroyable. Cet homme-là n'avait pas une bonne santé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Lorsqu'on entend ça, on se dit que c'était des gars avec des santé de fer. Non, très mauvaise santé, Jean Calvin. Je crois que Luther, si je ne me trompe pas, avait une très bonne santé. Mais Calvin avait une très mauvaise santé. À la fin de ses jours, il a fait une liste des maux dont il souffrait. Fait que si ça peut... Oui. Oui, la bière allemande. Mais c'est vrai que Luther aimait bien. Ah oui, c'est un grand buveur de bière. Calvin était plus austère, c'est vrai. Tu vois, c'est là que ça mène. Vive le bon vin. OK. OK, alors Calvin a fait une liste des maux qu'il avait vers la fin de sa vie. Arthrite, pierre aux reins, hémorroïdes, fièvre, néphritis, je pourrais pas le traduire, pardon? Une inflammation des reins, indigestion sévère, il disait « Tout ce que je mange me colle dans l'estomac comme des pâtes, des coliques et des ulcères. » D'accord? Alors ça, c'était comme son état de santé général. Et il n'a jamais permis à ce que ses problèmes de santé nuisent ou l'empêchent de continuer à pratiquer son ministère. Son dernier sermon, il a été conduit dans un lit jusqu'à la chaire, puis il a prêché. Ça, c'est son dernier sermon. Mais c'est quand même encourageant, parce qu'on a toujours l'impression que ces gens-là, c'est comme des... Dieu leur a donné la santé de Samson pour faire ce job-là, tu sais. Non, c'était un amour pour Dieu, puis... Exactement. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, sous son ministère, finalement, l'église dont il était le pasteur est devenue l'église officielle de la ville. D'accord? Fait que la semaine dernière et la semaine précédente, je parlais un petit peu des ajustements qui restaient à faire pour comprendre la séparation entre l'Église et l'État. Jean Calvin était convaincu que le conseil de ville devait diriger la ville, puis l'Église devait diriger les questions de la foi. Mais il y avait une seule Église en ville, c'est l'Église dont il était le pasteur. Ça a des incidences, d'accord? Parce que finalement, tout le monde est sous ce pasteur-là, puis sous la discipline de cette Église-là, d'accord? Alors, tout le monde en ville était censé vivre de manière morale, aller à l'église, puis respecter la parole de Dieu. Ce qui va amener certains excès, on va le voir, je vais le mentionner tout à l'heure. Par contre, ça a produit une ville très chrétienne. Une ville où les gens vivaient ces valeurs-là. C'était évident, il y avait un témoignage puissant qui était là. La ville a eu beaucoup d'influence, c'est-à-dire que la Bible a eu beaucoup d'influence sur l'éducation qui se faisait, les politiques, même dans le commerce, étaient influencées beaucoup. C'est devenu un refuge important pour les protestants un peu partout en Europe qui venaient trouver refuge à Genève. Et puis, on venait là pour étudier, puis après ça, on repartait pour pouvoir aller mettre en place des réformes dans notre pays d'origine. Ils avaient une vision missionnaire énorme aussi. Ils ont envoyé beaucoup de missionnaires un peu partout en Europe, même jusqu'au Brésil. Alors, on est quand même là en 1500 quelques. Et donc, ils avaient cette vision missionnaire. Calvin a fait une erreur qui lui est reprochée par les historiens aujourd'hui, puis que nous-mêmes, on lui reprocherait aussi. Je vais vous la raconter parce qu'à un moment donné, ça se peut que vous l'entendiez et vous vous dites, ben voyons donc, il n'aurait jamais fait ça. Oui, il a fait ça. À un certain moment donné, il y avait un médecin, c'était un médecin qui circulait partout en Europe. D'accord? Il avait une très mauvaise réputation partout parce qu'il était à la fois philosophe, médecin et une espèce de théologien. Mais il enseignait un certain nombre de fausses doctrines, dont le fait qu'il niait la Trinité, tout ça. Et il y avait un mandat d'arrêt en Europe contre cet homme-là. L'Église catholique courait après pour l'attraper et lui réserver le traitement qu'on réservait aux hérétiques à ce moment-là. Pour son grand malheur, il est allé se réfugier à Genève. D'accord? Et donc, à Genève, il voulait apporter le même enseignement. Il a été arrêté immédiatement et le conseil de la ville a décidé qu'il allait être condamné. À ce moment-là, le conseil de la ville l'ont condamné et puis ils ont voulu l'envoyer au bûcher. Jean Calvin participait pas à la décision, mais évidemment, la ville allait chercher son assentiment ou non. Alors, lui plaidait, s'il décidait de le mettre à mort plus tôt, pour qu'il soit décapité que brûlé vif. Mais en fin de compte, il a donné son assentiment et ce monsieur-là, qui s'appelle Michael Servetus, a été brûlé au bûcher à cette époque-là sous le pastorat de Jean Calvin. Et donc, certains vont vous mentionner ça pour vous dire « Oui, oui, les protestants n'ont pas fait mieux. » C'est vrai, dans le sens que c'est une erreur de parcours. Aujourd'hui, avec la distance qu'on a, on dirait « Bien, tu mets en discipline, ça finit là. » On n'a pas à porter la main sur lui au nom de la foi. Mais cette l'idée d'une liberté de conscience dans une ville où chacun a le droit de croire ce qu'il croit n'était pas du tout présente à l'époque. Oui, Armand? OK. Oui, il faut comprendre quelque chose, là, c'est que finalement, Jean Calvin n'a juste pas été au-dessus de son époque. D'accord? Dans le sens que si Servetus n'était pas à Genève, il était brûlé par l'Église catholique. Il a été brûlé par l'Église protestante, si on peut dire, à cette époque-là. C'est triste pour nous, parce qu'on comprend mieux la séparation entre l'Église et l'État. Et donc, on aurait préféré voir Calvin, encore une fois, être en plein dans le mille, puis simplement mettre cet homme-là en discipline. Mais c'était la pensée de l'époque, d'accord? Et il n'y avait pas l'idée de dire que dans une ville, il pouvait y avoir des gens qui croyaient toutes sortes de choses. Et c'est ça le point, là, c'est que pour eux, à cette époque-là, ils ne pouvaient pas concevoir que quelqu'un qui croyait quelque chose de faux pouvait être un bon citoyen. Puis dans un sens, dans une certaine mesure, on va être d'accord, d'accord? Quelqu'un qui croit, par exemple, que l'avortement, c'est bien, mais ne sera pas en tout point un bon citoyen, puisqu'il va approuver l'avortement. Mais ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que Christ ne nous demande pas de venir mettre en place la loi des Écritures comme imposée à tous, d'accord? Alors, la liberté de conscience. Oui, Jean, tu veux dire que... C'est ça, il y a une progression au niveau de la compréhension des Écritures. Oui, oui, oui. Maintenant, ça va venir... ce qui va clarifier ça, là, on va le voir un peu plus en Angleterre, ce qui va clarifier un peu plus l'importance d'avoir la liberté de conscience, c'est les relations que l'Église anglicane va avoir avec ceux qu'on appelle les Dissenters ou les Puritains, d'où viennent les Baptistes. Qui vont sortir de l'Église anglicane, d'accord? C'est là qu'on va voir qu'une Église a beau se réformer, ça se peut qu'un mouvement sorte après de cette Église-là, puis il pousse un peu plus loin, puis il s'approche un peu plus des Écritures, puis à quelque part, il faut laisser chacun cheminer là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard à travers l'Angleterre, essentiellement, d'accord? Mais au moment où on est avec Jean Calvin, à la même époque, partout en Europe, c'était un ou l'autre. Et puis, tu étais dans un camp ou dans l'autre. Et malheureusement, pour ce monsieur-là, Michael Servetus, qui était vraiment pas bien vu là en Europe, ben il était dans aucun camp. Donc, il n'allait pas trouver refuge en Europe, ça, c'est certain. Alors, on ne défendrait pas cette position-là, cet acte-là que Calvin a fait, même si ce n'est pas lui qui l'a posé, il l'a approuvé. On ne défendrait pas ça aujourd'hui, mais ça fait partie de l'histoire. Peut-être juste si on pouvait aller à... aux acétates où on voit une photo à l'intérieur d'une église, un temple protestant français, c'est ça. Alors, il y en a encore en Europe, on peut encore en trouver quelques-uns. Si tu veux aller à la prochaine, je voudrais juste montrer le plan. C'est pas très clair là, parce que c'est pâle, mais vous pouvez probablement voir quand même, ceux qui connaissaient bien l'Église catholique, il y a beaucoup de réflexions théologiques là-dedans. Ça a l'air simple, hein? C'est comme une temple. Mais il y a beaucoup de réflexions théologiques là-dedans pour décider que le lieu de culte pour les croyants va ressembler à ça plutôt qu'à l'Église catholique, d'accord? Qui est en croix avec l'autel, avec tout ça, avec une portion que les croyants ne peuvent pas accéder, c'est réservé au clergé, tout ça. Alors, ce que vous avez ici, vous avez la chaire qui est en bas, au centre, et vous avez les gens qui sont autour. Et le principe très, très simple, c'est-à-dire la parole de Dieu est au centre. Et on expose la parole de Dieu et c'est vers les Écritures qu'on se tourne pour connaître Dieu. Pas vers un homme, pas vers un autel, mais simplement tous ensemble autour de la parole de Dieu. D'accord? Et ça va, cette compréhension-là qui vient du protestantisme français, Genève, tout ça, va venir aussi ensuite de ça en France, en Angleterre, et avec les Huguenots, tout ça. On va adopter cette présentation-là d'un lieu de culte pour les protestants. Un temple protestant français. D'accord? Et donc, ça vous donne une bonne idée. Et ça parle de ce qu'on croit, c'est que la parole de Dieu est au centre. D'accord? Concernant les écrits de Jean Calvin, on va rentrer juste un petit peu plus dans le contenu de ce qu'il a produit avec ses institutions chrétiennes. Calvin, peut-être je peux vous le lire en français ici, Calvin a divisé son institution chrétienne en quatre sections. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire à quelle question est-ce que Martin Luther a cherché à répondre? C'est quoi la grosse question à laquelle Martin Luther a cherché à répondre? Comment fait-on pour être sauvé? D'accord? Il était à l'intérieur de l'Église catholique, pratiquait, faisait ses pénitences, faisait tous ses rituels, faisait tout à perfection. Jamais en paix dans son âme, aucune certitude de son propre salut. Alors, si Martin Luther cherchait à répondre à la question « Comment fait-on pour être sauvé? » Calvin avait déjà cette réponse-là, puisqu'il est arrivé après. Calvin a plutôt cherché à répondre aux questions suivantes. « Qui suis-je et qui est Dieu? » D'accord? Et donc, ce qu'il a réfléchi beaucoup, c'est « Qui on est, nous, comme êtres humains, devant la personne de Dieu? » Je vais juste vous lire les quatre sections de son institution. Le premier livre, c'est divisé en quatre livres. La connaissance de Dieu comme créateur et comme souverain gouverneur du monde. Je vais revenir là-dessus après. La connaissance de Dieu comme rédempteur en Jésus-Christ, ce qui a été connu d'abord des pères sous la loi et qui depuis nous a été manifesté dans l'Évangile. Donc, la connaissance de Dieu comme rédempteur. Deuxième livre. Troisième livre, la manière de participer à la grâce de Jésus-Christ, quels sont ses fruits pour nous et quels sont ses effets. Et le quatrième livre, les moyens extérieurs ou aides dont Dieu se sert pour nous conduire à Jésus-Christ, son Fils, et nous garder en lui. Ce qu'on appelle en anglais les « means of grace », d'accord? Les moyens de la grâce, par exemple, mon culte personnel, la prière, ce serait des « means of grace », la communion avec l'Église. C'est un moyen par lequel Dieu nous accorde sa grâce pour grandir en Jésus-Christ, d'accord? Alors, il divisait son livre en quatre sections. La première section, le premier livre, c'est la connaissance de Dieu comme créateur et comme souverain gouverneur du monde. C'est vraiment intéressant, si vous prenez le temps de lire les premiers chapitres des institutions chrétiennes de Jean Calvin. Jean Calvin commence avec l'idée suivante. Il dit « Tout être humain a en lui une semence pour la religion, pour croire en Dieu. » D'accord? Calvin se sert du terme « religion » pas dans le sens péjoratif qu'on lui reconnaît aujourd'hui, dont on sent généralement, mais dans son vrai sens, qui est la piété, la crainte de Dieu. D'accord? Alors, le vrai titre de son ouvrage, c'est « Institution de la religion chrétienne ». D'accord? Alors, lui, il dit « Tout être humain a une semence en lui » qui le pousse à croire un créateur. Et donc, il dit, l'être humain, naturellement, commence en se regardant lui-même. Puis une fois qu'il se regarde lui-même, il se pose la question, mais d'où je viens? Et donc, il commence à chercher ailleurs. Et ce qu'il dit ensuite, il dit, maintenant, pour que tout être humain se connaisse vraiment, se comprenne vraiment, il faut absolument qu'il arrête de regarder à lui pour se poser la question, d'où est-ce que je viens? Et il doit apprendre à contempler Dieu. Une fois qu'il va connaître Dieu, après, il va pouvoir se comprendre comme il faut. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? D'accord? Donc, si je veux comprendre qui je suis, d'où je viens, je vais écouter cette impulsion qu'il y a en chaque être humain de dire « Oui, mais je viens d'ailleurs, je viens de quelqu'un, j'ai un créateur, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a conçu tout ça, ce que je suis. » Je vais aller contempler ce créateur-là pour le connaître dans sa perfection, dans ses beautés, dans ce qu'il est, dans son amour, dans sa sainteté. et après, je vais être capable de m'examiner moi-même parce que je vais me positionner par rapport à ce Dieu-là. D'accord? Et donc, je vais me voir dans ce en quoi je lui ressemble, ce en quoi j'ai les qualités de Dieu parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, et ce en quoi je ne lui ressemble pas parce que je suis déchu, je suis un pécheur. D'accord? Et donc, toute son approche de la théologie, c'est comme ça qu'il l'approche. Il commence avec cette idée-là. Oui, Louise? Oui. Louise dit qu'avec la théorie de l'évolution, les gens ne cherchent pas qui est leur créateur, ils vont plutôt chercher les extraterrestres. Mais en même temps, moi je vous dirais que le comportement général dans la société tend à confirmer quand même la pensée de Calvin, dans le sens que les gens vont dire, bon ben ok, d'où je viens? Puis des gens, la majorité vont croire dans l'évolution, mais vont continuer à croire dans l'existence d'un Dieu. Ce qui est quand même une contradiction assez profonde, d'accord, dans ce qu'ils sont en... Donc, ils sont matérialistes, ils croient qu'on est juste le fruit de la matière qui a évolué, puis ils sont pas prêts à reconnaître qu'il y a un design divin, qu'il y a quelqu'un qui a conçu toutes ces choses-là, puis en même temps, ils continuent à avoir une foi très, très mystique, d'accord? Parce que la majorité des gens croient qu'on a une âme, puis qu'il y a quelque chose qui se passe après, puis on s'en va quelque part. Il y a juste une contradiction profonde entre ces deux convictions-là qu'ils ont. Notre origine matérielle uniquement, puis le fait qu'il y a une dimension mystique à l'être humain. Ces deux choses-là continuent à être présentes encore. Et lorsqu'ils se tournent, puis ils disent, ben, les extraterrestres, peut-être, certains d'entre eux croient ça, ils sont encore en train de chercher ailleurs d'où on vient. D'accord? Alors, ça tend à confirmer l'approche de Jean Calvin qui dit, chaque être humain a ça en lui. Et si tu veux bien te connaître, tu dois connaître le Créateur. C'est même une approche intéressante dans notre évangélisation. D'accord? Les gens qui passent par des moments difficiles puis qui se retrouvent plus, tout ça, mais tout simplement, justement, de leur mentionner, de dire, regarde, c'est peut-être parce que tu commences par toi. Peut-être parce que tu commences par toi. Mais si tu regardais vers celui qui t'a créé, celui qui te comprend, tu pourrais comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Et c'est ça qu'on fait généralement nous-mêmes. Lorsqu'on veut comprendre des patterns dans notre relation de couple, dans notre relation avec les biens matériels, tout ça, on s'en va vers Dieu, on regarde comment Dieu veut qu'on traite ces choses-là, comment est-ce que lui se comporte à l'égard de ça, puis on vient regarder comment est-ce que nous, on réagit à l'égard de ça. Puis là, on dit, OK, c'est là que je dois réformer comment je suis. D'accord? Maintenant, Calvin, comme j'ai mentionné au début, si je mentionne le nom de Jean Calvin un dimanche matin, les gens pensent tout de suite à la souveraineté de Dieu, à l'élection, tout ça, d'accord? C'est la première chose à laquelle on va penser. En réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. De son époque, ce qu'il a écrit, les instituts de la religion chrétienne, c'est l'ouvrage théologique le plus important de la Réforme. Plusieurs de ces gars-là écrivaient énormément, d'accord, l'imprimerie est sortie, là. Luther produisait beaucoup, beaucoup, il a produit de très bons ouvrages. C'est ça qui est le plus important, c'est ce que Calvin a produit, et c'est probablement un des ouvrages les plus importants pour le christianisme à travers tous les âges. Okay? Et donc, la souveraineté de Dieu, c'est un des éléments qu'il y a dedans. Maintenant, oui, le fait que Calvin regarde à l'homme, puis après ça, il dit, ça m'amène à regarder à Dieu, pour lui reconnaître ce qu'il voyait partout dans les Écritures, c'est que Dieu est entièrement souverain sur toute chose. Lui, ça, c'était un élément important. Ça le conduisait à adorer Dieu. Alors, pour lui, reconnaître la souveraineté de Dieu l'amène à reconnaître la majesté et la gloire de Dieu. Un Dieu souverain, c'est un Dieu qui est majestueux et un Dieu qui est glorieux. Donc, ça le conduit à l'adoration à l'égard de Dieu, de reconnaître la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je crois qu'il n'a jamais rencontré Luther. Zwingli puis Luther se sont rencontrés. À ma connaissance, Calvin n'a jamais rencontré en personne Luther. Non, non. Puis il y avait d'autres écrivains qui étaient importants, comme je mentionnais. Il y a Théodore de Bèze, il y a Erasme, qui étaient aussi des écrivains qui les influençaient. Ces hommes-là lisaient les écrits les uns des autres beaucoup. Mais Calvin vient un petit peu plus tard, par exemple. Puis c'était un autodidacte. Comme je l'ai mentionné tantôt, à 26 ans, il a publié cet ouvrage-là. Il n'avait jamais étudié dans une école de théologie. C'était un autodidacte. Oui, oui, puis c'est extrêmement édifiant. Oui, oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Calvin n'a pas été moine. Il n'a pas eu à sortir de là. Alors, Calvin ne pense pas toute sa vie à combattre l'Église catholique. Il expose les Écritures davantage. Martin Luther, c'est un homme blessé qui a été abusé par le système qui était l'Église catholique à l'époque. Et donc, jusqu'à la fin de ses jours, comme je vous disais, en tout cas, je vous dirai pas où trouver ces caricatures, là, mais c'est quelque chose. Là. Tu dis, OK, passe à autre chose à un moment donné. Non, non, il était très agressif à l'égard de l'Église catholique. Pour lui, c'était clair que c'était... Et il faut comprendre, l'Église catholique a gardé les gens dans un mensonge au nom du Christ pendant des siècles. Au nom de Jésus-Christ, tu caches l'Évangile. Inconsciemment pour la majeure partie, parce qu'ils font partie du système. D'accord? Mais le système lui-même, au nom de Jésus-Christ, cache l'Évangile. C'est une chose quand vous avez, admettons, l'islam qui vient et qui vous dit des affaires sur Jésus qui ne sont pas vraies. C'est une autre affaire quand le livre principal en avant, c'est la Bible. Le gars qui enseigne, il fait tout ça au nom de Jésus-Christ, puis il dit « Gagne ton ciel, mon copain, puis achète des indulgences pour aller au ciel, sortir du purgatoire. » Comprenez? C'est tout un contexte, là. Et le système s'est pas réformé. Puis on... C'est ça. Le système s'est pas réformé. Il nous observe. Il nous observe. Pardon? Oui, un manque de compréhension, un manque de recherche de Dieu à un certain moment donné, des abus de pouvoir. Je sais qu'il nous observe. Il continue encore aujourd'hui à nous observer. On a un nouveau Monseigneur. Je vais aller sur mute ici juste une petite seconde. Monseigneur Lépine, c'est le nouveau cardinal de Montréal qui remplace Monseigneur Turcotte. L'archevêque, je m'excuse. D'accord? L'archevêque, pas le cardinal. Le cardinal Ouellet, tu les mélanges, là. L'archevêque. Je m'excuse pour la petite pause dans le micro. Je m'excuse, je vais juste rentrer un petit peu plus dans son enseignement. Oui, oui. Vas-y, je vais lire en diagonale. Oui.
Et on ne peut pas laisser toute notre éducation du jour au lendemain parce que c'est progressivement qu'on comprend les erreurs et on comprend comment on doit s'adapter. Donc, au fur et à mesure, à partir de Luther, on s'aperçoit que la Bible d'aujourd'hui qui est devenue une révélation beaucoup plus complète que dans ce temps-là, on progresse encore nous aussi dans ça.
Oui, c'est vrai. La nuance que je ferais, c'est que lorsqu'on dit que la révélation est progressive, c'est que lorsque je parle de la Genèse, j'ai pas toute l'information. Au fur et à mesure que Dieu donne les Écritures, l'information se complète. Et donc, lorsque je suis dans l'Ancien Testament, le plan de salut de Dieu est là, mais il est pas tout clair puisqu'il est pas tout accompli, c'est à travers Christ. Une fois que l'Apocalypse se termine, j'ai toute la révélation. La révélation, dans ce sens-là, n'est plus progressive, elle est entière, d'accord? Maintenant, la sanctification... ou l'illumination, la manière que nous, le terme qu'on va utiliser, en théologie, on va parler de révélation pour parler de la Bible, puis Puis on va parler d'illumination lorsqu'on parle de comment notre cœur comprend les Écritures. Et on va dire que la compréhension de la Bible dépend de l'illumination que l'Esprit nous apporte. C'est pas une nouvelle révélation, dans le sens que c'est pas une nouvelle parole de Dieu, mais c'est une illumination de notre cœur. Et dans ce sens-là, l'illumination est progressive, puis Dieu réforme nos cœurs. Et dans ce sens-là, le parallèle tient, parce que les réformateurs partaient d'une période très, très sombre, Dark Ages, partaient de cette période-là, et puis ils apportaient progressivement la lumière de la parole, ils faisaient du ménage dans ce qu'ils croyaient eux-mêmes, progressivement. Mais je vous dirais qu'à l'intérieur de 50-60 ans, 95% de ce qu'il y avait à faire comme ménage était tout fait. Ça s'est fait très, très rapidement. Retourner aux Écritures, ça se fait très, 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 très rapidement. Et il y a vraiment, si vous prenez ce que ces gens-là enseignaient, ce que nous, on enseigne, il y a très peu de différence. Il y a une différence sur le pédobaptisme, continuer à baptiser les bébés avec une drôle de compréhension, les presbytériens le font encore. Il va y avoir une différence sur la compréhension exacte de la séparation de l'État et puis de l'Église. Je pense pas qu'il y a d'autres différences. C'est pas mal les seules différences qu'il y a. Et donc là, on parle quand même de plusieurs siècles maintenant, d'accord? Mais retournez aux Écritures, étudiez-les comme il faut, puis on arrive rapidement à ça. Après ça, c'est sûr, il y a la sanctification personnelle dans notre propre vie. Si on veut rentrer un petit peu dans la question de l'élection, tout ça, de ce que lui enseignait, je vais essayer de vous le résumer, il nous reste une dizaine de minutes. Pour comprendre d'où il vient et où est-ce qu'il s'en va avec ça, c'est important parce que on résume de manière un peu vulgaire Calvin enseignait lorsqu'on dit, bon, mais il croyait dans l'élection pure, donc que Dieu a élu sans aucune connaissance à l'avance de ce que les gens allaient choisir, mais il a élu, puis d'autres qui n'ont pas élu, puis ça finit là. Et puis l'idée que ceux qui sont élus, ben sont élus à jamais, donc ne perdront pas leur salut, tout ça. C'est vrai que c'est ça. C'est un peu simpliste, c'est pas comme ça que lui l'approchait et c'est surtout pas comme ça qu'il l'enseignait aux gens, d'accord? Et donc, je vais essayer juste de vous résumer ça rapidement. La première préoccupation de Calvin, c'était une préoccupation pastorale, d'accord? Il voyait des chrétiens qui croyaient dans l'Évangile, qui croyaient dans le salut par la foi en Jésus-Christ, qui s'appliquaient à marcher avec Dieu et qui pourtant étaient anxieux par rapport à leur éternité. Et pastoralement, lui, il dit, ça marche pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Dieu ne vous perdra pas. Dieu ne vous échappera pas. Si vous avez placé votre foi en lui, Dieu ne vous échappera pas. Il va vous garder jusqu'à la fin, d'accord? Et ça, c'était son premier souci. C'est pour ça qu'on parle, j'asais justement de ça avec David cette semaine. Généralement, on va parler de la persévérance finale des saints. Pardon, plutôt que la perte du salut. Et donc, on va dire, ceux que Dieu a appelés, ceux que Dieu a élus, vont persévérer jusqu'à la fin. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de pernicieux dans l'idée de dire « Ouais, mais tu ne peux pas perdre ton salut. » Et il y a une tentation possible à ce moment-là de s'asseoir sur la grâce puis de dire « Ben, sauver un jour, sauver toujours, je peux m'asseoir là-dessus puis ça finit là. » C'est pas de là que ça vient pour Jean Calvin. Jean Calvin aurait répliqué immédiatement à quelqu'un comme ça « Possiblement que tu n'es pas chrétien et ça finit là. » Parce que si c'est comme ça que tu comprends l'Évangile, tu n'as pas compris l'Évangile. Et donc, tu n'es peut-être pas chrétien. Puis tu ne devrais pas te sentir en sécurité. Mais son souci était pour ceux qui avaient placé leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, comprenaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés par leurs propres œuvres, s'appliquaient maintenant à vivre une vie sainte en remerciement à ce que Christ a fait et qui pourtant étaient insécures par rapport à leur éternité. Pour lui, ça aussi, c'était porter atteinte à l'Évangile. D'accord? Parce que ça te ramène à dire, « Ah, mais es-tu en train de me dire qu'en fin de compte, il te manque un petit peu d'œuvre pour être sûr que tu vas rentrer au ciel? » Et donc, c'est comme ça qu'il le voyait. Donc, pastoralement, pour lui, c'était un souci de pouvoir rassurer ceux qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ. À la question « Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui sont les élus? » C'est quand même une question importante. Hein? S'il y a des élus, puis si Dieu a choisi, bien, comment on fait pour les connaître? Vous allez aimer la réponse de Jean Calvin. Jean Calvin va dire « On ne peut pas avoir d'absolue certitude, c'est Dieu qui le sait. » Maintenant, si on devait chercher des signes, si on devait chercher des indices dans notre propre vie, il disait il y a trois éléments qu'on devrait chercher à observer dans notre propre vie. Notre participation à ce que lui appelait à l'époque les sacrements, ça veut dire se faire baptiser et prendre le repas du Seigneur. Pour lui, c'était des marques d'obéissance importantes d'un croyant. Est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu prends fidèlement le repas du Seigneur avec les frères pour rester dans la communion des saints, t'examiner à la lumière de la croix régulièrement, comme on va le faire tout à l'heure ce matin ensemble? Deuxièmement, une vie sainte à la lumière des Écritures. Est-ce que ta vie est sanctifiée par la parole de Dieu? Si elle n'est pas sanctifiée par la parole de Dieu, tu ne devrais pas avoir cette sécurité dans ton cœur. Et pour Calvin, là, si vous lisez les institutions, c'est vraiment tout. C'est, quand on parle d'une vie sainte, c'est autant ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, ma relation par rapport à la pureté ou l'impureté qu'on va trouver dans le monde, les convoitises du monde, les biens matériels. Est-ce qu'on voit le fruit de l'Esprit qui est en train de produire une sanctification progressive dans ma vie? Est-ce que je grandis de plus en plus toujours à la lumière, à l'image de Christ, d'accord? Et puis, troisième élément, une profession publique de ta foi. Est-ce que publiquement, tu te tiens debout pour Jésus-Christ? Lui dit, si vous voulez comme rassurer votre cœur que vous faites partie des élus, c'est les trois marques que vous devriez chercher dans votre propre vie. C'est pastoral, c'est concret, c'est pratique. Calvin mettait une emphase énorme sur la gloire de Dieu. Pour lui, toute l'idée de la souveraineté de Dieu est importante pour comprendre la gloire de Dieu. Et selon Jean Calvin, ce qui a manifesté comme rien d'autre dans toute l'histoire, dans toutes les saintes écritures, la gloire de Dieu, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et donc, il voyait la souveraineté de Dieu pour amener le salut selon ses desseins, la souveraineté de Dieu pour que le salut soit offert en Jésus-Christ. Et pour lui, c'était la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Si vous suivez des prédicateurs comme John Piper a adopté exactement cette pensée-là de Jean Calvin. Il dit, Dieu fait tout pour sa gloire et la manifestation suprême de sa gloire, c'est ce qu'il a accompli à la croix en Jésus-Christ. Dieu fait tout constamment pour sa gloire premièrement et la manifestation ultime de sa gloire, c'est la personne de Christ. Donc, le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas une adaptation à la bêtise des hommes, c'est un dessein éternel de Dieu et c'est ça qu'on va apprécier lorsqu'on va être dans l'éternité. Si vous lisez l'Apocalypse, l'agneau est au centre de notre adoration. D'accord? Alors, en conclusion, trois hommes, Martin Luther, celui qui a redécouvert l'Évangile, et on peut vraiment être reconnaissant à Dieu pour cet homme-là, tous des hommes imparfaits qui ont fait des erreurs aussi, mais un boulet de canon, Martin Luther, qui était capable de se tenir debout contre toutes les menaces. D'accord? Zwingli, un peu la même chose qu'il a fait en Suisse. Il a été excommunié et il s'est tenu debout. Il s'est même tenu au front. Il est mort sur le champ de bataille, si vous vous rappelez bien. Et puis, Calvin a vraiment été le penseur qui a structuré la pensée chrétienne comme ça n'avait pas été fait encore à l'époque, sinon ce qu'on a dans les Écritures avec Paul, tout ça. Mais Calvin a vraiment été le théologien. Il nous a laissé un ouvrage majeur qui est l'Institut de la religion chrétienne. C'est encore extrêmement édifiant, c'est excellent à lire. Et puis, il nous a laissé des commentaires bibliques sur à peu près tous les livres de la Bible qui sont encore lus régulièrement chaque semaine par des milliers de pasteurs dans le monde pour pouvoir étudier les Écritures. Et à partir de ce moment-là, on a l'Évangile entier qui nous est donné, qui nous est redonné. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ta grandeur. Je veux t'adorer pour ta fidélité, Seigneur, parce que tu sais bâtir ton Église, Seigneur Jésus, contre vents et marées. Tu avais dit, Seigneur, à tes apôtres que des moments difficiles viendraient et que l'Église serait attaquée. Paul avait averti les anciens d'Éphèse que des faux docteurs se lèveraient des loups, Seigneur. Et il y a des moments difficiles dans l'histoire de l'Église où on voit l'Évangile pratiquement disparaître, Seigneur. Mais en même temps, on voit ta fidélité. On voit ta grâce et nous sommes ici l'Église de l'espoir et les chrétiens évangéliques partout dans le monde, aujourd'hui, nous sommes vraiment bénéficiaires, tributaires du courage de ces hommes et de l'œuvre que tu as fait en eux par ton esprit pour nous aider à redécouvrir l'Évangile, nous redonner les Saintes Écritures dans nos mains, Seigneur. Aide-nous, Père, à honorer ta parole, à honorer l'ouvrage et l'œuvre que tu as accompli à travers eux, à chérir ton Évangile, Seigneur, et réaliser combien c'est précieux de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'enseigner, Seigneur. Aide-nous aussi, comme Jean Calvin nous exhorte à le faire, à examiner nos vies constamment, à savoir si vraiment nous portons ces fruits de la repentance, ces fruits de la grâce dans nos vies, cette manifestation que nous sommes des élus, que nous avons été appelés, que nous avons été sauvés et que nous marchons comme tels, Seigneur, afin que nos cœurs soient rassurés, que nos cœurs soient en paix devant toi et que nous poursuivions paisiblement notre marche chrétienne. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour le privilège de pouvoir étudier comme ça l'histoire de ton Église. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on s'en va en Angleterre voir l'histoire de l'Église anglicane.